d'être repéré comme tel, et il est sur un territoire, on le connaît, et puis que d'autres blocs sont susceptibles d'être aussi identifiés, les Chinois, le sous-continent indien ou l'Afrique. L'Afrique, par exemple, on sait que d'un point de vue démographique, elle va représenter 25% de la population dans quelques années, une quinzaine ou une vingtaine d'années, je crois. Donc il est bien évident que quand vous avez sur un territoire un taux de fécondité qui s'abaisse avec des populations qui viennent sur ce territoire, des populations dont le taux de fécondité augmente, c'est mécanique. Vous avez juste un certain nombre de chiffres, vous avez à les additionner, puis à un moment donné, vous appuyez sur total et vous obtenez un total qui montre effectivement que les civilisations s'effondrent aussi parce que leur taux de fécondité s'effondre. Alors je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Les décadentistes disent il faut interdire l'entrée des migrants, je ne le dis pas. Et ils disent il faut arrêter la pilule, je ne le dis pas. Arrêter l'avortement, je ne le dis pas. Ils disent il faut une politique familialiste
Bien
incitative à faire
sûr.
des enfants. Je ne le dis pas non plus. Je ne suis pas du tout sur cette logique-là. Je constate juste effectivement que le bloc judéo-chrétien, avec son texte de référence, le Nouveau Testament, est en train de devenir minoritaire et que si on prolonge la courbe, eh bien, il n'y a pas de raison qu'effectivement on ne laisse pas la place à d'autres civilisations, une civilisation dans laquelle assez probablement l'islam prendrait une part importante parce que ni le confucéisme chinois, ni l'hindouisme indien n'ont manifesté de velléité de prendre la place.
Mais Michel Onfray, on sait évidemment que cette hypothèse d'un pouvoir islamiste qui arriverait au pouvoir, etc., dans les pays occidentaux, c'est une menace qui est agitée par l'extrême droite pour justifier notamment la fermeture des frontières, pour justifier une politique très stigmatisante à l'égard des musulmans, etc., etc. On sait que c'est le fonds de commerce des xénophobes, des partis extrémistes. Je suis évidemment pas du tout en train de dire, et je vous catégorise pas du tout dans ce camp-là, mais ce sont quand même des idées et des hypothèses qu'on sent bien aujourd'hui qu'on doit manipuler avec beaucoup de prudence.
Oui, vous avez absolument raison. Mais j'ai pris soin de dire tout à l'heure que je n'étais pas un décadentiste et que je ne disais pas qu'il y avait des solutions pour ça. C'est comme si on veut continuer dans la métaphore de la gériatrie et vous avez affaire à une personne extrêmement âgée qui a 95 ans et dont vous savez qu'elle va bientôt mourir. Vous avez toujours des gens qui arrivent et qui disent « Mais moi, j'ai une poudre de perlimpinpin qui va vous redonner votre jeunesse. J'ai deux ou trois cachets miraculeux qu'il vous suffira de prendre pour retrouver vos jambes de 20 ans, votre intelligence de la même époque et votre libido d'alors. » Ce sont des gens évidemment qui vendent du vent et du mensonge. Et il y a des gens aujourd'hui qui vendent du vent et des mensonges, notamment l'extrême droite, quand elle nous dit qu'il faut des murs, des frontières, des gardes-barrières, des douaniers, et pour empêcher ces flux migratoires qui sont terribles ou ce genre de choses. Mais ça sert à rien. On peut pas mettre par définition, si vous mettez des douaniers partout et que vous faites des murs à peu près partout, il y a des moments où il y a un endroit où le mur il n'existe pas et vous passez à cet endroit-là, ou éventuellement vous faites comme au Mexique, des trous sous les murs et vous passez sous les murs. Et puis voilà. Ça n'a aucun sens de croire qu'en faisant une petite digue de quelques mètres, on va pouvoir empêcher une immense vague d'arriver. Donc l'extrême droite dit, alors évidemment, je partage avec l'extrême droite, comme avec pas mal de gens, le constat qu'effectivement, ça ne va pas très bien, mais je ne vois pas qui aujourd'hui pourrait nous dire que ça va bien. Mais en revanche, je me distingue d'eux dans la solution, puisqu'ils disent qu'il y en a une et que moi, je dis qu'il n'y en a pas. Il y a juste une solution qui est de mourir debout en disant, soyons élégants, et ça, ce sera le livre suivant, et vous m'inviterez pour ça, qui s'appellera Sagesse et qui dira comment on peut mourir de manière élégante alors que le bateau coule.
Michel Onfray, vous êtes notre invité ce matin pour votre livre Décadence, qui est paru aux éditions Flammarion. C'est notre coup de cœur entrée sans frapper en collaboration avec la FNAC. On vous retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite.
La première, entrée sans frapper.
Entrée sans frapper ce matin, notre invité Michel Onfray pour son dernier livre Décadence, qui est le deuxième volet d'une trilogie intitulée Brive Encyclopédie du Monde, qui est paru juste après Cosmos, et dans laquelle vous retracez l'histoire de cette disparition progressive de l'Occident et de la civilisation judéo-chrétienne. Et ce qu'on appelle, Michel Onfray, la civilisation judéo-chrétienne est forcément lié à la religion. Vous nous l'avez rappelé et expliqué tout à l'heure. Mais alors, question un petit peu naïve, mais pourquoi est-ce que finalement l'effondrement de la religion, puisque c'est quand même ça qui est au cœur de la désintégration de cette civilisation, implique de facto la disparition de la civilisation, qui a, vous nous l'expliquez, a totalement mué depuis le 15e siècle, où des valeurs humanistes sont apparues, de nouveaux courants philosophiques, etc. Pourquoi est-ce qu'on parlerait pas plutôt de transformation plutôt que de disparition? Ce serait un peu moins anxiogène en plus.
Oui, alors oui, on pourrait, mais c'est un petit peu comme, moi je ne suis pas père de famille, mais comme ces gens qui pensent que parce qu'ils ont fait des enfants, ils vont pouvoir mourir parce qu'ils vont se transmettre. Bon, on voit bien que le capital génétique des enfants est censé poursuivre notre propre capital génétique, mais ça nous fait une belle jambe de nous dire qu'on continue sous forme de nos enfants, parce que ce sont deux vies séparées, deux vies distinctes, et parfois même deux vies contradictoires. Et parfois, les enfants ne ressemblent pas aux parents, et c'est la même chose, il y a des civilisations qui en produisent d'autres, mais qui ne se ressemblent pas. Quand on me dit parler du judéo-christianisme, et vous ne parlez pas des sources, par exemple, hellénistico-romaines de l'Occident ou de l'Occident judéo-chrétien, je dis, mais enfin, ça n'a pas grand-chose à voir. Les Grecs et les Romains croyaient à des dieux. Ils étaient polythéistes, et nous, on est monothéistes. Ce n'est pas exactement la même chose. Par exemple, quand Saint Paul arrive à Athènes, et qu'il veut christianiser les Athéniens, les fameux Éphésiens, etc., ou les Athéniens. Mais là, pour le coup, c'est à Athènes. Il arrive et puis il raconte son histoire. Et les Grecs disent, mais nous, on a des autels à tous les dieux, on a même un autel aux dieux inconnus. Le polythéisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la place pour un nouveau dieu. Et on ne va pas se battre si d'un seul coup, vous avez un nouveau dieu. Ils avaient même prévu l'autel pour ce dieu qu'ils auraient pu oublier. Et Saint Paul dit, eh bien, cet autel au Dieu inconnu, c'est le mien, et c'est le seul, c'est-à-dire il faut abolir les autres. Les autres sont des faux dieux. Mon Dieu est le seul vrai Dieu. Et il commence à raconter l'histoire du Jésus, fils de Dieu, incarné, qui a pris un corps pour être crucifié, qui ressuscite le troisième jour, et qui nous indique que si nous suivons sa voie, eh bien, nous aussi, nous pourrons renaître sous forme de ce qu'il appelle un corps glorieux. Et il fait rire, c'est le mot qu'utilise le Nouveau Testament, il fait rire les Athéniens. Les Athéniens, ils se marrent en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce type qui nous dit que quelqu'un est fils de Dieu, qu'il a un corps humain, qu'il meurt, mais qu'il ressuscite, et qu'en plus de ça, il nous dit, faites comme moi, et à un moment donné, vous aussi, votre corps qui aura pourri dans la tombe, eh bien, il ressuscitera sous la forme qui a été la sienne précédemment. Donc effectivement, cette civilisation gréco-romaine, elle a généré un peu de notre civilisation, mais pas sur l'essentiel, puisque le monothéisme et le polythéisme, ça n'a rien à voir, et qu'une philosophie de l'incarnation et une philosophie qui n'est pas philosophie de l'incarnation ou du corps glorieux, ça n'a rien à voir non plus. Donc oui, on peut parler d'une transformation, mais il y a une telle modification dans la transformation que parfois, les enfants sont méconnaissables.
Oui, d'accord, mais
si ça vous empêche d'être anxieux, je veux bien consentir.
non, mais c'est sur l'idée d'imaginer que la mue de la civilisation judéo-chrétienne se fasse autrement que par la religion, c'est-à-dire que on peut imaginer une espèce de civilisation post-chrétienne où il n'y ait pas nécessairement une idéologie concentrée sur l'individualisme consumériste ou comme aujourd'hui, mais peut-être post-consumériste. On voit quand même aujourd'hui certains courants qui s'intéressent à développer un autre modèle de société, etc. Une société laïque, mais ouverte aux différentes croyances, donc sans domination religieuse centrale, etc. C'est une hypothèse un peu improbable ou naïve à vos yeux, ça ?
Je ne dirais pas naïf parce qu'il y a quelque chose comme un jugement de valeur, mais mon travail est nietzschéen. Hein. Et Nietzsche verrait dans tout ça, il voyait d'ailleurs dans tout ça, alors entendons-nous bien, je ne souscris pas à ça, mais le végétarisme, le féminisme, le pessimisme, nous disait Nietzsche, c'est le signe de l'effondrement d'une civilisation. C'est le signe du fait qu'on devient faible. On imagine que les femmes, par exemple, devraient pouvoir faire la loi, qu'il ne faut pas manger de chair animale parce qu'il ne faut pas faire de mal aux animaux, etc. etc. Alors je le redis, hein, je ne suis pas d'accord avec Nietzsche sur ces points-là. Et je reste un Nietzschéen de gauche, si on peut le dire comme ça. Mais effectivement, on voit bien aujourd'hui qu'il faut plutôt faire un symptôme ou des symptômes, y voir des symptômes de décadence dans cette aventure, parce qu'il n'y a pas de transcendance dans ce que vous me signalez. Et le propre de la religion, c'est la transcendance, c'est-à-dire l'au-delà. Il y a un au-delà, Et c'est ce qui définit une religion pour moi, c'est l'existence d'un au-delà qui donne son sens à l'ici-bas, c'est-à-dire on vous dit il y a ici-bas, il y a la terre bien sûr, mais ce qui donne un sens à ça, c'est la vie après la mort, c'est l'au-delà, c'est l'existence d'une divinité dans un autre monde, et les civilisations ne se constituent avec des qu'avec des religions parce que les religions permettent les fictions, les allégories, les choses qui sécurisent. C'est plus facile de mener quelqu'un par le bout du nez si vous lui expliquez que dans un monde parallèle, il y a le paradis, il y a l'enfer, il y a le purgatoire, il y a le jugement de Dieu, que vous allez être récompensé et que vous aurez la vie éternelle, ou que vous allez souffrir et que vous aurez la damnation éternelle. Voyez Dante et la Divine Comédie qui nous fait des descriptions terribles des enfers et du purgatoire, et puis une description, j'allais dire, paradisiaque du paradis. On nous raconte ces histoires-là. Et ça galvanise les gens. Il y a un moment donné, on n'y croit plus. Et même le christianisme ne croit plus à toutes ces choses-là. Moi, j'ai des discussions avec des amis chrétiens, notamment avec un prêtre, qui me dit « Ah non, non, tout ça, c'est du symbolique, c'est de l'allégorique, il ne faut pas prendre ça sur parole, etc. » qui finirait par nous dire que le paradis, il est sur terre, l'enfer, il est sur terre, que le purgatoire aussi, il est sur terre, que la transcendance est une fiction, que dans l'Eucharistie, c'est un symbole, ce n'est pas vraiment le corps du Christ qui se trouve dans l'hostie, que ce n'est pas le sang du Christ qui se trouve... Je dis « Mais tu dis des choses qui sont très antichrétiennes. D'abord, au 12, 13e, 14e siècle, 15e ou 16e siècle, tu serais allé sur un bûcher. Et ensuite, tu ne crois plus même à ta propre religion alors que tu la portes toi-même et que tu as fait profession de porter cette religion. Donc la transcendance a disparu. Elle a même disparu chez les chrétiens. Je consacre un chapitre à Vatican II en montrant que Vatican II est un concile qui justement déchristianise le christianisme et que c'est une espèce de forme de paradoxe. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, vous avez raison, c'est une espèce de... presque de mouvements de panique, de gens qui cherchent un sacré et qui le retrouvent dans une communion avec la nature, dans une espèce de génuflexion devant la nature avec la décroissance. Je défends la décroissance, hein, entendons-nous bien, et qui défendent également la cause animale et qui travaillent à la suppression de la souffrance animale. Et je fais partie de ceux-là, j'ai signé des textes pour que l'animal ne soit pas considéré comme un objet. Ce texte est d'ailleurs passé à l'Assemblée nationale. Mais effectivement, on voit bien que la transcendance a disparu et que nous sommes dans la pure immanence. Et une civilisation ne vit pas et ne survit pas quand elle n'est plus que dans l'immanence.
Et à la fin de votre livre, vous évoquez brièvement une autre voie possible de remplacement de civilisation, ou en tout cas d'une autre forme de religion, parce que c'est un peu ça quand même, c'est le transhumanisme. Mais on n'a plus le temps de s'y intéresser. Peut-être que ça fera d'ailleurs l'objet d'un de vos prochains livres, qui c'est le transhumanisme. C'est une matière qui doit vous intéresser.
Je peux même vous faire un scoop, parce qu'en fait... vous faire un scoop.
Faites-nous
parce qu'effectivement, la brève encyclopédie du monde est présentée comme une trilogie. En fait, ce sera une tétralogie et le prochain volume s'appellera Sagesse et on abordera la question évidemment de la morale. Et je ferai effectivement, vous avez raison, un livre qui s'appellera Nihilisme pour le coup et qui racontera que si effectivement l'islam prend la suite de notre civilisation, j'allais dire ce qu'à Dieu ne plaise, c'est de toute façon très ponctuel parce que ce bateau coulera aussi et que ce vers quoi nous allons effectivement, c'est le transhumanisme, le post humain, la post-vérité.
Ouais. Merci beaucoup Michel Onfray d'avoir été avec nous ce matin. Décadence, c'est paru aux éditions Flammarion. C'est un coup de cœur entrée sans frapper en collaboration avec la FNAC.